Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous sommes très heureux d'accueillir Bernard Laurence, créateur du blog lacuisinedebernard.com et auteur de deux livres, Les desserts de Bernard et Le grain de sel de Bernard, les deux parus aux éditions Flammarion. Voilà pour la présentation. La première question que je voulais vous poser, c'est d'où vient votre goût, votre passion pour la cuisine ?
Parce que j'adore manger. Parce que je ne fais que ça de ma vie, j'ai l'impression. Non, j'aime tout manger depuis tout le temps. Déjà, juste une question, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le blog ? Non, tout le monde connaît le blog de toute façon, donc vous savez, vous connaissez un peu mon parcours aussi. J'imagine qu'à travers ce que j'écris dans le blog, de toute façon, vous devez comprendre et connaître mon obsession pour la nourriture. Malheureusement, ce n'est pas la seule, mais en tout cas, c'en est une grande déjà. C'est l'amour du bien manger. Pour moi, une journée où je vais mal manger, sincèrement, c'est une journée de gâcher. C'est horrible à dire parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à manger. Mais je n'ai pas forcément besoin de manger beaucoup, mais au moins quelque chose qui va me plaire et qui vraiment me procure un plaisir. C'est pour manger un plat surgelé, une boîte de conserve, mais pour moi, je déprime pendant 2 jours après et je serais capable de m'empiffrer de M&M's. Donc, je préfère manger bien, des bonnes choses tous les jours. Et le fait de vouloir bien les manger, c'est aussi savoir bien les préparer et cuisiner soi-même parce qu'on maîtrise ce qu'on mange. Donc, c'est parti de là. C'est l'amour de la nourriture, vraiment. Mais je suis un ex-obèse aussi, et ça, on ne le sait pas forcément. Jusqu'à l'âge de 18 ans, je faisais 120 kilos, et ça a été, une grande problématique dans ma vie. La nourriture, ça n'a pas toujours été si simple que ça. Et du coup, je mangeais énormément quand j'étais adolescent, quand j'étais jusqu'à 10 à 18 ans, et ce sont de gros problèmes médicaux et cardiaques qui ont fait que j'ai perdu du poids parce que j'étais obligé de le faire. Et du coup, j'ai pris beaucoup de distance avec la nourriture à l'époque. C'est pour ça aussi, en plus de ce que je disais tout à l'heure, où mes parents étaient vétérinaires et me poussaient vers des études scientifiques, à ne pas me diriger vers des études, à ne pas devenir cuisinier. Parce qu'on me demande souvent, mais pourquoi tu n'as pas ouvert un restaurant ? Pourquoi tu ne t'es pas dirigé là-dedans si tu aimais tant ça ? Mais justement, il fallait que je prenne cette distance avec la cuisine. Donc, je me suis redirigé complètement vers autre chose. Et du coup, c'est des années plus tard, en 2009, vraiment, où l'idée germait depuis quand même un moment, où je me suis dit, mais si je veux faire des livres, il faut que je le fasse. Il faut que je me lance. Allons-y, faisons-le. Mais c'est vraiment la nourriture.
Est-ce que vous vous rappelez le premier plat que vous avez fait ?
Alors là, je me souviens du premier que j'ai fait où j'étais vraiment content, c'était des œufs pochés, les œufs pochés norvégiens au saumon, ceux qui sont dans le livre, d'ailleurs dans le grain de sel, vous avez peut-être vu avec un dôme de saumon, et la recette est aussi dans le blog, bon la photo est juste immonde dans le blog, mais ce sont des œufs pochés posés sur un fond d'artichaut avec une farce et un saumon fumé, une tranche de saumon fumé posée dessus, donc ça fait un joli dôme. C'est une recette que ma mère faisait parce qu'elle achetait ça chez Le Nôtre avant, et elle trouvait ça très cher, donc du coup, elle préférait les faire elle-même. Et du coup, j'ai appris à faire les œufs pochés vers 7 ans. Et je faisais sans doute déjà beaucoup de gâteaux avant. Mais quelque chose d'un... Parce que les œufs pochés, ça paraît très compliqué pour beaucoup de monde, alors que c'est très simple, vraiment. Mais à 7 ans, pour moi, j'étais déjà très content. Surtout que vraiment, ça ressemblait à ce que je fais aujourd'hui dans le bouquin. Donc, je n'ai pas tellement évolué, finalement.
Je me demandais si vous aviez des livres de cuisine de chevet, si on peut dire.
Ah bah oui, j'en parle souvent, c'est Faites votre pâtisserie comme le nôtre, qui était édité chez Flammarion, justement. Donc j'avais ça vraiment, c'est mon livre de chevet, d'ailleurs je l'ai toujours, il est chez mes parents qui sont en Bretagne. Le livre est complètement détruit, il faudrait que je le fasse recouvrir par un relieur professionnel. Mais j'ai racheté plus tard sur eBay une première édition à cette époque. Du coup... oui, donc faites votre pâtisserie comme le nôtre et suivi de faites vos glaces et bonbons comme le nôtre. Non, je ne sais plus, faites vos glaces comme le nôtre après. Je vous recommande parce qu'ils sont toujours d'actualité. Les recettes sont pour la plupart très bien parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas non plus. Que je pense qu'ils ont dû rater la copie ou ils se sont complètement mêlés les pinceaux à un moment donné ou c'est peut-être l'époque qui voulait qu'on ne dise pas les vraies recettes qui étaient en photo. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien dedans encore. Donc oui, j'avais vraiment un livre de chevet.
Ils sont toujours disponibles ?
Je crois pas. Mais maintenant, sur eBay, oui, en occasion. Je pense qu'on les trouve. Moi, je l'ai acheté là, il y a 4 ans, la première édition sur eBay, et je l'avais payé 60 €. Donc, c'est pas non plus complètement excessif, quoi, il me semble.
Et est-ce que vous achetez des livres de cuisine ?
Non, j'ai arrêté maintenant. Ça déborde, je me blesse avec les livres de cuisine. Je l'ai mis littéralement sur une armoire, ce qui fait qu'il me tombe sur la tête à chaque fois que je sors des toilettes. Donc, je me suis dit, j'arrête, parce que j'ai plus la place, il faut que je déménage. Donc, j'ai des livres... Je sais plus, ça, c'est des montagnes, mais oui, j'en ai beaucoup. Mais maintenant, on m'en offre, Mais sincèrement, je ne regarde plus depuis très longtemps les livres de cuisine. Le truc, c'est que les livres de cuisine aujourd'hui sont très bien, mais j'évite d'aller sur les blogs, j'évite d'aller regarder les livres des autres parce que j'ai pas envie de faire ce qu'ils font. Et dès que je regarde ce que quelqu'un d'autre fait, j'ai envie de faire comme lui ou elle. Et donc, du coup, j'évite. En revanche, des livres qui m'intéressent sont des livres vraiment pro. Des livres souvent aux couvertures totalement hideuses, avec des photos datant des années 50, mais où les recettes sont vraiment fantastiques. Et ce sont d'ailleurs des livres qui, eux, même neufs, valent des fortunes d'ailleurs. Enfin, pour un livre de cuisine, c'est 200 euros des fois, hein, juste un volume. C'est très cher, mais là-dedans, on a vraiment des... tous les secrets de ce qu'on rêve de connaître. Alors finalement, c'est juste accessible à tout le monde, mais il faut... Mais bon, même hier, il y a des fois des livres d'occasion qui coûtent moins cher, mais c'est plutôt ceux-là qui m'intéressent aujourd'hui, plus que des livres de cuisine classiques. Je préfère les faire maintenant.
Est-ce qu'il y a des plats que vous faites souvent pour des amis ou pour vous-même ?
Mon assassin, il est souvent réclamé à la maison, je le fais souvent. Les pains au fromage brésilien aussi, qui s'appelle le pão de queijo, je ne sais pas si vous avez déjà essayé la recette sur le blog. Alors peut-être qu'à Bordeaux, trouver la fécule de tapioca, ce n'est pas forcément simple, mais je sais que vous pouvez, parce que même dans le Finistère Nord, au fin fond du monde, on la trouve. Donc je suis sûr qu'il y a une épicerie asiatique ici où vous pouvez trouver ça. Et c'est un petit pain caoutchouteux, mais absolument délicieux, que vous mangez au petit déjeuner au Brésil, en général avec la papaye, le café au lait, le jus d'orange. Mais en France, on va le préférer sans doute avec un verre de vin rouge à l'apéritif. Et je vous conseille, à la place des gougères, vous essayez le pain au fromage, vous avez la recette dans le grain de sel qui est dedans. C'est une recette que je fais régulièrement, mais des recettes que je fais régulièrement, non. Parce que je suis tout le temps en train de chercher de nouvelles recettes, ou pour le blog, mais je ne publie qu'une fraction de ce que je fais réellement. Et maintenant, je mets aussi beaucoup de recettes de côté que pour mes prochaines publications, parce que j'ai déjà en tête au moins 4 volumes à publier, minimum, parce que j'ai déjà rien que toutes les recettes des volumes sont déjà écrites dans mon téléphone. Si vous me le volez, vous saurez ce qu'il y a dedans. Mais quelles sont les prochaines recettes ? Vous avez pas mal de recettes secrètes cachées dans mon téléphone aussi. Oui, non, justement, j'en fais quelques-unes, oui, mais je sais pas, la carbonade flamande ou le bœuf bourguignon, mais je vais toujours faire une recette que justement j'ai pu manger quelque part dans le monde, que je vais avoir envie de refaire à la maison. Donc toutes les semaines, je fais des dîners à la maison avec des amis quasiment, en ce moment un peu moins, mais en général je fais ça, et c'est toujours une nouvelle recette qu'on n'a pas mangée. Des curry thaï aussi, des fois. Ouais, la curry thaï, c'est très bon, donc j'en fais souvent.
Vous pourrez parler un peu de votre blog pour savoir comment il est né. Enfin, il est né en 2010. Maintenant, il a beaucoup de succès. Il a plus d'un million de... mensuels de vues.
Alors, presque deux. Ah, c'est oui, plutôt 1,8 million de visites par mois. Vous connaissez tous le blog. Donc, janvier 2010, les Golden Blog Awards en 2010 qui m'ont apporté vous tous. Hein, parce que sans tout ça, le trafic n'aurait pas augmenté. Et c'est du bouche à oreille après qui fait que ça marche. Pour moi, j'ai ouvert ce blog dans le seul et unique but, au départ, d'écrire des livres de cuisine. Je voulais m'en servir comme un CV. Et dès les 5 premiers mois, d'ailleurs, j'avais des amis qui travaillaient dans des maisons d'édition, mais que je n'ai pas du tout contacté pour Flammarion, parce que c'est Flammarion qui m'a contacté en revanche. Mais au départ, quand je ne connaissais rien au monde de l'édition, je me disais, au bout de 5 mois, j'avais pris rendez-vous avec un ami, je lui disais, mais tiens, regarde mon blog. Il me regardait comme un extraterrestre en me disant « Mais un blog, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? ça tu ne peux pas faire un livre avec ça ?» Mais j'étais totalement persuadé que ça allait marcher. Pour moi, je n'avais aucun doute. J'étais sûr qu'en faisant... Enfin, j'étais tellement obsédé, c'est-à-dire que je suis sain d'esprit, hein, je vous rassure. Enfin, je crois. Mais c'est tout le temps que j'y pense. Et j'assouviens un peu des fantasmes que j'avais quand j'étais adolescent sur la cuisine, c'est-à-dire que j'avais envie de connaître les recettes de tout ce que je mangeais, de tout ce qui était secret. Ce qu'il y a surtout, c'est que je ne supporte pas de ne pas comprendre les choses. C'est-à-dire que c'est valable dans tout. Moi, j'ai fait 10 ans de piano et je voulais absolument savoir jouer du Franz Liszt. Et quand j'y suis arrivé, j'ai compris que de toute façon, je ne serais jamais pianiste concertiste, donc j'ai arrêté. Ensuite, ça a été la prestidigitation. Il fallait absolument que je comprenne les tours de magie. Et j'ai de même donné des cours de prestidigitation à l'époque, et jusqu'à ce que je comprenne que je voulais de toute façon pas être magicien, mais lire des livres de physique quantique, je voulais absolument comprendre comment était fait notre univers. Enfin, ça va loin, mon délire. Donc, c'est-à-dire que j'aime comprendre les choses, et la cuisine, c'est exactement la même chose, sauf que là, je sais que je peux en faire quelque chose, parce que c'est vraiment une passion authentique depuis que je suis tout petit, et que c'est celle qui me poursuivra de toute façon jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, j'en suis persuadé. Mais c'est comprendre une recette, c'est-à-dire que comme la magie, comme toutes ces choses-là, je ne supporte pas de ne pas comprendre. C'est-à-dire que si je vais manger le cannelé bordelais, je vais pas me satisfaire d'une recette où on vous dit qu'il faut prendre un moulant en silicone. Pour moi, ça me paraît totalement dingue qu'on, déjà qu'on puisse dire ça. Enfin, si vous voulez vraiment un vrai cannelé, il faut un moulant cuivre, il faut pas de beurre, mais ni de cire d'abeille, mais du slider ou une bombe de démoulage professionnelle. Enfin, il faut tous les petits trucs, il faut tous les températures du lait au moment où on ajoute pour pas que ça surcuise la pâte, la température du four. Enfin, il faut connaître toutes ces choses-là. Et finalement, j'adorais aussi les mathématiques quand j'étais en terminale. Et c'est ça, c'est comprendre ce qui est sous-jacent, comprendre comment c'est fait pour arriver au résultat. Et la cuisine, c'est aussi de la science. C'est-à-dire que souvent, c'est ce qu'on me reproche, en tout cas des débats que j'ai eus avec des cuisiniers, c'est qu'on me reproche de ne pas mettre de poésie. Mais si, il y a de la poésie dans la cuisine, et j'en mets. Et il y a de la poésie quand on savoure aussi. Mais pour comprendre, j'adore cuisiner les plats salés parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Mais les plats sucrés, ce que je trouve totalement génial, c'est de me dire... Vous prenez le cannet de Baillardrand, vous dites, mais on sait ce qu'il y a dedans, mais c'est juste du lait, de la farine, du sucre, des œufs, mais il faut comprendre ce qu'il y a dedans, l'ADN, comment ça a été fait, l'historique de la recette, comment la méthode de cuisson. C'est ça que je trouve absolument passionnant. C'est vraiment, comme je dis dans l'introduction d'ailleurs des desserts, c'est une chasse au trésor. On a tous les éléments sous les yeux, mais il faut retrouver la piste, et ça j'adore dans la cuisine sucrée. Dans la cuisine salée aussi, mais c'est plus simple en général. C'est quand même plus facile de remonter ou, comme je disais, de corriger en cours de cuisson, finalement. Donc, c'est ce que je dis dans le livre. Mettez-y aussi votre propre grain de sel dans le livre salé. Je parle beaucoup. Hein. Mes cours de cuisine, c'est pareil. Je parle tout le temps. Je suis complètement desséché à la fin d'un atelier un atelier à Paris, d'ailleurs.
Dans votre blog, il y a beaucoup de recettes, mais aussi toute une partie sur les voyages culinaires. Mm-hmm. Peut-être que vous nous en parlez, parce que c'est passionnant, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur les produits, et ça, c'est intéressant. Quand vous voyagez, vous découvrez énormément de produits, et ça va être intéressant de les utiliser en cuisine après.
Mon autre passion, parmi beaucoup d'autres, c'est aussi les voyages. Ça, vous l'avez compris, dans mon blog, je crois qu'il doit y avoir 35 voyages culinaires maintenant. Je parcours le blog en le globe en permanence, et j'ai cette chance de pouvoir le faire et de pouvoir goûter à énormément de choses sans presque jamais aucun a priori. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas de meilleure cuisine qu'une autre. Enfin, évidemment, il y a des cuisines qui se distinguent bien par rapport au reste du monde. Enfin, la France en tête, pour moi, on est franchement très bon sur en plus le salé et le sucré. Vous prenez le Maghreb, pour moi c'est un pays où des pays où dans lesquels je me régale, particulièrement le Maroc, le Brésil, la Thaïlande, l'Italie, le Vietnam, tout ça, ce sont des pays où on se régale. Et donc j'ai cette chance de pouvoir voyager, de pouvoir goûter les plats sur place, et comme je disais aussi tout à l'heure, je racontais ça parce que je suis allé voir, quand on va voir les gens et qu'on leur pose la question de savoir comment on fait, on s'imagine que les gens gardent les secrets pour eux, mais non, la plupart du temps, les gens les gardent. Et donc, je discute beaucoup, ils me donnent des recettes, je goûte, je vais dans les marchés, en effet, et j'adore découvrir des nouveaux fruits que je ne connais pas, des nouveaux légumes, et même aujourd'hui, pourtant, j'en ai vu beaucoup, beaucoup de choses, parce que c'est pas que je me vante, mais c'est vu que je suis passionné et que je passe ma vie à ça, je suis étonné quand je ne connais pas un produit. Donc des fois, quand je mets la photo sur le blog, d'ailleurs, je dis « si quelqu'un connaît ce truc-là », c'est des noms encore plus compliqués que la photo à comprendre, mais je trouve ça passionnant de se renseigner sur les ingrédients, sur tout ce qu'on peut avoir sous la main dans le monde. Tout ce que l'être humain a été capable de créer jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même des millénaires de cuisine, et je trouve ça fantastique. Moi, je ne suis pas du tout dans le trip de voir ces restaurants qui font des trucs sans doute très bonnes, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout de voir un morceau de viande avec une pomme de terre coupée, avec trois points de sauce et de la mousse. On a toujours l'impression qu'il y a Alien qui a bavé dedans à un moment donné. En ce moment, c'est ça la mode, c'est trois machins et une émulsion. Voilà. Moi, les émulsions, je ne peux pas. J'ai l'impression de voir un jus d'huître monté en mousse. Moi, ça ne me donne pas envie, je préfère manger des choses... consistance, mais c'est pas une critique, parce que je pense que c'est sans doute très bon, je ne connais pas, mais c'est pas du tout l'approche que j'ai de la cuisine. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les traditions culinaires, comprendre comment on va faire un banh xeo, c'est une crêpe vietnamienne que vous mettez, c'est une espèce de, d'ailleurs j'ai acheté la marmite au Vietnam, j'en ai pas encore parlé dans le blog, parce que je me suis dit, je pense que je vais me faire critiquer si je mets la recette des banh xeo sur le blog, mais c'est une espèce de grosse marmite avec une toile tendue au-dessus de la vapeur, et on verse une pâte à base de farine de riz, et ça cuit très rapidement à la vapeur, et on farcit ça avec du porc un peu sucré, épicé, mais c'est totalement génial comme recette, et de pouvoir manger tout ça, c'est une chance inespérée. Et quand je vois ce qu'on a pu justement mettre au point tous ces et surtout dans le dernier siècle, parce que toute la pâtisserie, la cuisine sucrée, le sucre n'existait pas non plus. Ça fait pas des millénaires qu'on fait des desserts. Hein, ça fait plutôt que sur le dernier siècle où on s'est vraiment penché sur le sujet, même si beaucoup de choses existaient déjà avant. Mais beaucoup de choses ont été très, très récemment, comme le cannelé, c'est récent. Tout le monde pense que ça fait 500 ans que ça existe, mais ça fait à peine une centaine d'années, il me semble. Le kouign-amann, c'est pareil, c'est 1860, en Bretagne, dans le Finistère Nord, si vous ne connaissez pas le kouign-amann. On a tout ça sous la main, et je sais que j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie à parcourir le monde, à découvrir sans cesse de nouvelles choses, et à trouver cette excitation de me dire... Il faut que je comprenne comment ils font. Et c'est pas pour posséder la recette, mais c'est simplement pour comprendre et pouvoir le remanger et pouvoir aussi transmettre, parce que c'est ça que je veux faire. C'est à la base, écrire des livres, c'est transmettre aussi cette information. Et vous l'avez vu dans le blog, en général, je mets tout ce que je peux comme information. Je ne garde pas les recettes pour moi. La recette que je vous donne, c'est la vraie recette que j'ai mise au point après souvent pas mal de temps de recherche. Et dans les bouquins, c'est la même chose. Mais voilà, donc j'ai cette chance de pouvoir faire ça. Et les voyages culinaires, j'en ai pas mal de prévus encore. Mais j'en ai fait beaucoup en plus avant de commencer le blog. Mais comme je n'avais pas prévu de faire ça, j'ai pas fait toutes les photos. Mais j'aimerais bien retourner au Mexique, par exemple. Parler de la cuisine mexicaine aussi, qui est assez méconnue et très critiquée. J'imagine que c'est que des chips de maïs, mais non, il n'y a pas que ça. Je ne sais pas, il y a tellement d'endroits où j'aimerais aller, au Cambodge aussi. Et puis même, rien qu'à Thaïlande, où je vais régulièrement, par exemple, ou au Brésil, c'est que quelques endroits que je connais. Quand on s'imagine tout ce qu'il y a dans le monde, mais on pourrait écrire des encyclopédies sans fin. Et même rien qu'ici, par exemple, si vous allez à Bordeaux ou à Paris, vous allez demander à des pâtissiers. Enfin, l'inspiration, elle est vraiment partout, en permanence. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà 3 ou 4 volumes de prévus, c'est-à-dire que j'en finirai jamais. Voilà.
Peut-être un peu évoquer vos livres pour savoir comment vous les avez construits. Le dessert de Bernard et le grain de sel sont un peu construits de la même manière.
Oui, tout à fait.
L'évoquer.
Alors, vous le connaissez peut-être pour ceux qui ont déjà le livre. Voilà, vous avez 4 chapitres. Vous avez un chapitre sur l'Europe, un chapitre sur les Amériques, Nord-Sud, l'Asie et l'Afrique, Moyen-Orient. Sur les desserts, l'Europe est beaucoup plus gros comme chapitre parce qu'évidemment, en Europe, on a une riche tradition là-dessus, en France, en Allemagne, en Espagne, on a beaucoup de desserts. Si vous allez en Asie, c'est en Afrique, c'est plus des fruits, mais on trouve quand même pas mal de choses. Et donc, les desserts, c'est surtout sur l'Europe. Mais il y a quand même beaucoup de choses ailleurs. Les Amériques aussi, parce que tout le monde pense qu'aux États-Unis, ils ne savent pas cuisiner, mais non, ils savent très bien cuisiner. Enfin, pas tous, mais on mange très bien aussi là-bas quand on veut bien manger. Et le grain de sel, alors j'ai essayé d'équilibrer beaucoup plus, c'est-à-dire que j'ai quasiment à 3-4 recettes près le même nombre de photos ou de recettes, enfin, quoique peut-être plus à 10 près dans le livre sur le grain de sel. Dans les desserts, vous avez presque un tiers des recettes qui sont inédites par rapport au blog, qui ne seront jamais dans le blog. Et dans le grain de sel, vous avez 50% des recettes qui sont soit inédites, soit totalement... J'aime pas le mot revisité, comme j'aime pas le mot verrine ni café gourmand, mais j'aime pas cette idée de revisiter, mais c'est que j'ai remis la recette au point par rapport... C'est pas que j'ai revisité, c'est que je l'ai retravaillée. Voilà, on va dire que c'est des recettes inédites ou retravaillées. Un exemple, les raviolis au porc les raviolis pékinois, par exemple, je crois que j'ai retravaillé la recette ou j'essaie de regarder plus, je ne sais plus trop ce que j'ai. Les rouleaux de printemps, par exemple, la recette est retravaillée aussi, ce n'est plus la même. Et là, je vous propose d'ailleurs dans le livre une recette qui est totalement démente, il faut absolument vous l'essayer. C'est des rouleaux de printemps avec dedans, si vous mettez du bœuf à la citronnelle encore tiède et que vous trempez ça dans la sauce au cacahuète dont j'ai mis la recette, dedans, c'est juste à mourir, c'est super bon. Alors avec moi, vous oubliez les maillots pour la plage cet été, c'est foutu avec moi. Vous restez à Bordeaux, vous n'allez pas au bord de la mer.
Les recettes, il y a des pas à pas, mais pas tout le temps, en fait.
Non, parce que ça coûte très cher. Autant dans un blog, je fais ce que je veux, parce que je suis le maître unique de mon blog, et c'est moi qui le fais tout seul, donc de toute façon, je décide de ce que je vais faire. Je pense qu'un jour, préparez-vous à ce qu'il n'existe plus, parce que je pense qu'un jour, il va juste exploser avec toutes les photos que j'ai mises dessus. Je crois que j'en suis à 30 000 photos, je ne sais même pas comment il tient. Je pense qu'il va faire... qu'il va éclater de photos. Sur un livre, au départ, Flammarion, je leur ai dit « J'aimerais bien faire des recettes en pas à pas sur toutes les recettes. » Et là, ils m'ont dit « Mais c'est pas possible, on peut pas faire ça, ça a un coût, une photo, le photographe prend du temps. » Et en effet, sur le premier livre, il y a 16 pas à pas, par rapport aux 80 photos qu'il y a. Enfin, il y a 80 photos, et sur ces 80 recettes prises en photo, bon, il y a des photos où vous avez 2-3 recettes des fois, mais il y a 16 recettes qui sont en pas à pas. Et un pas à pas, c'est 2 heures de prise de vue, quoi. C'est-à-dire que c'est très long à faire, donc faire ça sur toutes les recettes, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Et en plus, ça multiplierait le budget par 3 ou 4 d'un tel livre. Et en plus, à présenter, c'est pas facile parce qu'il faut enlever du texte. C'est-à-dire que si je veux avoir autant de texte, il faut augmenter le nombre de pages, et donc ça augmente le coût du livre, ou ça diminue le prix de, enfin, ce que touche Flammarion. Donc, je rentre dans des détails un peu techniques, mais le monde de l'édition, moi, je suis tombé là. J'étais totalement utopiste, mais je suis ravi de ce qu'on a fait, mais on peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. On peut pas tout maîtriser. Et sur le deuxième, quand j'ai vu le travail que ça avait été sur le premier et que je voulais augmenter le nombre de photos, on est passé de 80 à 110 photos, ce qui est énorme, parce que c'est 5 semaines de prise de vue, en plus de l'écriture. Et là, on a réduit à 11 pas à pas. Donc, j'ai vraiment voulu mettre des recettes un peu plus techniques, ou des pliages, ou quelque chose que je trouvais intéressant à montrer, une technique un peu particulière, un pliage traditionnel, ou la feuille de pandanus, ça fait rire ce nom, mais enfin le poulet aux feuilles de pandan, on peut dire aussi, mais c'est le pandanus, hein, ça s'appelle comme ça. Le pliage est assez particulier, mais justement je trouvais ça intéressant à mettre en photo. Pour des recettes très complexes, j'essaie de détailler au maximum dans l'écriture, mais après il y a Flammarion, l'éditrice, qui vient avec ses paires de ciseaux aussi derrière, donc c'est difficile, hein, de vouloir garder son intégrité totale dans un livre, mais je pense que quasiment tout a été gardé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on me fait des fois cette critique que c'est écrit petit, mais parce que je leur ai pondu un sacré pavé, donc ils se sont dit il faut que ça passe en 288 pages, on le fera rentrer. Mais j'ai enlevé une recette du livre quand même, mais qui n'était pas inédite, c'était la Tangia, mais que je garde pour un prochain livre, parce que je voudrais bien, l'idéal, j'aimerais bien avoir toutes les recettes de mon blog un jour dans un livre, que ce soit. Donc ça veut dire que pour toutes ces recettes-là, il faudra que j'en fasse autant d'inédites pour les prochains livres. Donc ça fait beaucoup de recettes, je pense. Encore beaucoup de choses à cuisiner. Je pense que je finirai jamais, de toute façon.
Pour le livre, à chaque fois, vous avez réalisé les recettes. Et donc c'est un photographe qui les prenait en photo. Donc.
Oui, tout à fait. Quand j'ai vu Flammarion, pour moi, c'était une obligation totale d'écrire, de faire moi-même les recettes pour les photos. C'était évident, parce que à partir du moment où vous avez des photos sur un blog, si quelqu'un, en général, comment ça se passe sur un livre de cuisine ? Parce qu'il faudrait que vous compreniez pourquoi je dis que c'est assez exceptionnel que j'ai fait les recettes des photos. C'est-à-dire que normalement, un auteur de cuisine, si vous prenez, à part des grands chefs, qui souvent ça sort du resto ou de la pâtisserie, mais si vous prenez un livre de cuisine, n'importe lequel, mais vous ne connaissez pas l'auteur, dans 100% des cas quasiment, c'est l'auteur a écrit la recette. Elle n'a pas toujours testé, envoie le PDF à une styliste ou à un styliste, la styliste ou le styliste réalise la recette, la met en valeur dans un beau plat et sur un bon fond, et une photographe ou un photographe prend la photo. Des fois, la styliste fait aussi la photo, et des fois, l'auteur est aussi la styliste et la photo, mais c'est plus rare, parce que c'est plus compliqué à gérer, sauf pour des livres où il y a 30 photos. Mais pour Flammarion, dès le départ, pour moi, c'était très clair et j'ai imposé ça. Mais ils ont dit oui tout de suite, il n'y avait pas de problème. Mais je leur ai dit, je veux faire mes recettes. Je ne veux pas laisser le soin à quelqu'un d'autre de faire mes recettes. Déjà, il faut qu'il y ait une continuité entre ce que je fais sur le blog et le livre. Il ne faut pas qu'il y ait une rupture. Et pour le livre, donc, il a fallu que j'aille sur ces prises de vue. Ce n'est pas simple parce que c'est 6 photos par jour. Ça ne semble pas beaucoup, mais quand vous multipliez par 5 jours, ça fait 30 recettes. 30 recettes qui doivent être parfaites pour la photo, donc il faut réussir. Pour les desserts, c'est compliqué, parce que quand on démoule un gâteau et que ce jour-là, de toute façon, c'est le jour où vous voulez que ça réussisse, que ça rate systématiquement. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai fait avant d'y arriver, alors qu'en général, j'y arrive toujours, et l'assassin, par exemple, j'ai dû le faire 2 fois, parce que ce jour-là, évidemment, je n'ai pas voulu le réussir. Je m'arrachais les cheveux sur le premier livre. Le grain de sel, c'est beaucoup plus simple, parce que si jamais il manque un ingrédient qu'on a oublié d'acheter, parce qu'il faut acheter quand même les ingrédients pour les 6 recettes de la journée, et ça prévu sur plusieurs jours, donc forcément sur les centaines d'ingrédients qu'il y a, il en manque toujours un. Sur le dessert, c'est embêtant, mais sur le grain de sel, c'est pas compliqué. On fait la recette. Par exemple, Il y a une recette, je pense, où j'avais pas le temps. Je crois que c'est la tom kha gai. La tom kha gai, c'est une soupe thaïlandaise au lait de coco. Que le lait de coco soit cuit et avec les épices vraiment infusées ou non, ça change à rien. Donc, du coup, on a mis le lait de coco, la feuille dedans et le truc de piment, mais visuellement, ça change à rien du tout. Je crois que c'est la seule, mais tout le reste, on a vraiment mangé. Hein. Je peux vous dire, on a tous pris au moins 5 kilos pendant ces 5 semaines de prise de vue.
Mais c'est la question que je me posais. Ouais, c'est
voilà, Eh ben nous. Alors pour les desserts, on a beaucoup mangé, mais on a beaucoup donné aussi. Mais sur le grain de sel, là en plus c'était bien parce que la photographe avait entre-temps changé d'endroit. Donc elle a un énorme studio qui fait 110 mètres carrés à Montreuil. Et elle travaille avec un autre photographe qui travaille aussi pour 180 degrés d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai travaillé pour les 3 premiers numéros. Et elle loue ce grand studio qu'elle partage avec un autre photographe. Donc on était deux équipes. Il y a deux cuisines. Donc une grande cuisine américaine où moi j'apporte tous mes ingrédients, mon matériel, je cuisine et la styliste vient chercher. Elle met tout sur des grandes armoires, tous les bols, les assiettes, les fonds en marbre, en fonte, en bois. Et elle vient voir, on se met d'accord, bah tiens, ça irait bien avec ça. Et après, la photographe prend la photo. Mais du coup, il y avait deux livres en même temps. Et moi, le livre, ça a duré 5 semaines, ce qui est un record pour la photographe et la styliste. Les autres, c'était en général 3-4 jours, ils restaient. Et puis ça tournait comme ça. Mais du coup, le midi, on se retrouvait, on mangeait tout ce qu'on faisait sur les livres. Alors les gâteaux magiques, j'en ai mangé, je peux vous dire que c'est vraiment pas bon. Je ne comprends même pas pourquoi on mange des gâteaux magiques parce qu'il y a eu deux livres sur les gâteaux magiques pendant que j'y étais sur le studio. Donc c'est bon une fois, mais enfin un livre entier sur les gâteaux magiques, au bout d'un moment vous allez dire bon, on va peut-être manger un Gravlax plutôt qu'un gâteau magique, quoi.
Justement, vous avez parlé de Revue 180, qui est une revue qu'on aime beaucoup ici à la librairie Mola. Vous avez une rubrique sur le craqueur de...
J'ai eu, parce que c'est voilà, fini. C'est depuis fini. 3 mois, j'ai voulu arrêter.
Voilà, ce que je posais la question.
Moi, oui, pour diverses raisons, parce que déjà ça me prenait énormément de temps. Il y a un moment donné, il faut savoir aussi stopper les choses, c'est-à-dire que entre le blog, les ateliers, les voyages, les émissions chez Cuisine Plus que j'ai faites aussi, les projets que j'ai en ce moment, il y avait à un moment donné, il y avait Foodies Box aussi, il y avait 180 degrés. Et tout ça, même si c'était qu'une recette tous les 6 mois, en plus c'était une recette qu'il fallait que je craque, et moi quand je le fais vraiment, et du coup ça prend énormément de temps, j'y pense tout le temps. Et à un moment donné, c'est pas bon de faire ça pour la tête. C'est-à-dire qu'on y pense trop et ça devient... je ne vais pas dire de gros mots, mais ça devient vraiment casse-pied. On ne pense plus qu'à ça et ça me gâchait l'existence juste pour un truc. Alors que ça aurait dû être le contraire. J'aurais dû prendre énormément de plaisir à faire ça. Ça a été le cas au départ. Mais de faire le blog, le livre, tout ça en même temps, je ne pouvais plus le faire. Et il fallait que je choisisse. Et il y a eu diverses histoires en plus avec 180 degrés. Et puis quand on voit combien on est payé, surtout c'est un peu le problème aussi, c'est que c'est payé au lance-pierre, les mondes de l'édition, c'est ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que Flammarion, j'ai le premier livre, je l'ai fait pour le plaisir, hein, quasiment. Le deuxième, un peu aussi. Mais voilà, on pense que les livres, on en vend 10 000, 20 000, on gagne beaucoup d'argent, mais non, pas du tout. C'est-à-dire que en plus, vous avez l'URSSAF derrière qui vous attend, vous avez les impôts, vous avez tout le travail que ça demande. Et finalement, j'ai calculé que ça me rapportait 5 fois moins que le SMIC, à peu près, ce livre, sans rire, c'est vraiment ça en plus. Mais c'est le plaisir de le faire. Mais voilà, il y a des limites à un moment donné. C'est-à-dire que Foodies Box, je l'ai fait, j'ai pas gagné un centime avec ça. Cuisine Plus, je l'ai fait, j'ai été payé en tant qu'animateur d'une première émission, c'est-à-dire que c'était à prendre ou à laisser. Donc j'ai accepté des conditions qui n'auraient jamais dû être acceptables, mais j'ai pu avoir une émission qui était bien faite, enfin jolie, avec un beau décor, tout ça, mais qui était faite à 2 émissions par jour, où il fait 30 degrés sur le plateau. Donc à un moment donné, on ne se rend pas bien compte de ça quand on n'est pas dans les coulisses, quand on voit le blog. Des fois, je sais que des gens me disent « Ah, mais on vous publie moins qu'avant », mais parce que c'est juste que j'en fais tout le temps et énormément. Et que on a aussi envie de profiter d'aller prendre un verre dehors avec des amis, que on a envie de se dire bah tiens demain je vais rien faire, je vais répondre à aucun mail. Et voilà pour ça que j'ai arrêté 180, c'est parce que ça me prenait vraiment vraiment beaucoup. Enfin c'était le truc en trop, comme Foodies Box où c'était une fois par mois, mais c'était dans la tête tout le temps en fait. Donc il fallait vraiment à un moment donné arrêter. Mais c'était très bien parce qu'ils ont fait c'est une très belle revue d'ailleurs. Ils m'ont proposé de faire le 4e numéro à l'époque. Je crois qu'ils en sont 5e. Mais j'aimerais bien travailler avec eux. Maintenant, je pense que c'est trop tard, ils me diront non. Mais plus en tant que craqueur de recettes, parce que c'était aussi compliqué d'être que dans cette catégorie-là. Et Cuisine Plus, au départ, pour ceux qui ont Cuisine Plus, voulaient que je sois craqueur de recettes aussi dans une émission. Mais voilà, je sais que si on est mis là-dedans, on est cantonné en ce rôle-là, et après c'est pour longtemps, et je voulais être autre chose que juste craqueur de recettes, c'est-à-dire que c'est surtout très compliqué de craquer des recettes, enfin, les pastés c'est 6 mois de travail. Ouais. C'est-à-dire que j'ai recommencé derrière. Parce que je vous ai mis une recette sur le blog pas longtemps, il n'y a pas longtemps, au mois de décembre. Et ce n'est pas celle que vous avez dans le livre. Donc ça, il y a eu encore plus d'essais derrière pour recommencer. Bizarrement, la pâte feuilletée, ça a été en deux fois. J'avais vraiment l'idée précise en tête et je savais comment j'allais arriver. Les pâtes feuilletées, pour moi, je sais exactement le nombre de tours qu'il faut mettre. Enfin, je ne sais pas, j'y vais à la pince à épiler s'il faut compter le nombre de feuilles qu'il y a dedans. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il fallait comprendre que c'était pas du beurre et bien une matière grasse et pas non plus la margarine. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Mes élèves en cours de cuisine, quand je donne les cours de passé Zenata, me regardent avec des gros yeux. À la fin du cours, ils sont tous aux anges parce qu'ils disent « mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça le secret ». Et la crème, oui, c'était drôle parce qu'au départ, j'ai fait un reportage sur les passés Zenata dans mon blog à Lisbonne et je me suis dévoué à en manger toute la journée pendant 3 jours. C'était vraiment un gros sacrifice. J'ai fait toutes les meilleures pâtisseries de Lisbonne et évidemment Belém, pour moi qui ne sont pas forcément les meilleurs d'ailleurs, ils sont très bons, mais ils ont une telle clientèle que c'est systématiquement servi tiède. Et donc forcément, c'est croustillant, la crème est encore tiède, enfin, c'est très bon. Mais ils ne passent pour moi pas le test de l'épreuve du temps, c'est-à-dire qu'un jour après, il y en a d'autres qui sont bien meilleurs que Belém. Belém, ils sont très bons, hein, mais voilà, c'est pas non plus... Je trouve ça très intéressant d'ailleurs ce concept et l'idée qu'on se fait d'une recette avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que, par exemple, si demain j'ouvrais un magasin en vendant des assassins sans jamais avoir donné la recette, je pense que j'en vendrais des centaines et des milliers et que les gens feraient la queue et que les gens se déchiraient sur Internet pour savoir qu'est-ce que j'ai mis dedans. J'en suis persuadé. À partir du moment où vous donnez la recette, le secret a disparu et vous perdez un peu ce mythe. Et c'est un mythe, les pastéis de nata. C'est-à-dire que tout le monde se dit, surtout si vous allez à Lisbonne, j'ai des amis portugais qui me disent d'un côté les pastéis de nata et de l'autre les pastéis de Belém. Mais pour moi, non. Il y a les pastéis de nata et Belém fait des pastéis de nata qui sont les pastéis de Belém. Mais c'est juste leur recette, comme il y a les cannelés Bayardran, le moine, la toque cuivrée, des choses comme ça. Chacun a sa recette, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont si différents que ça. Et c'est en faisant ce reportage que j'ai vu qu'ils avaient des grandes cuves et que c'était des cuves à bain-marie, mais je l'ai vu genre 6 mois après, alors que j'avais la composition en tête, je savais quel goût je voulais avoir, mais pour avoir le truc qui cuisait exactement comme je voulais, il fallait d'abord la pré-cuire dans un bain-marie, et c'est en regardant mon reportage que j'ai compris que j'avais la photo sous les yeux et cet indice depuis longtemps. Donc c'est vraiment une chasse au trésor, quoi. C'est, on cherche, mais 35 essais, j'en ai fait beaucoup plus que ça. Mais beaucoup plus, que j'ai loué même le labo où je donne les cours de cuisine, j'ai loué pendant 3 jours et je me suis enfermé dedans quasiment du matin au soir pour ne faire que ça. Et je notais toutes les cuves, une à une comme ça, du matin au soir. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, telle proportion, qu'est-ce que j'ai fait ou pas, mais c'est à ce point-là. Hein. Quand je vous dis que je suis un peu dingue, peut-être que c'est vrai. Je m'inquiète en m'entendant parler finalement. Pour d'autres, non. Il y en a, moi, je me suis fait presque engueuler par des chefs qui me disent « mais c'est n'importe quoi, vous détruisez... » Ils me comparent à un magicien qui irait dévoiler les trucs dans une émission. Il y a des émissions, d'ailleurs, aux États-Unis qui existent, ou peut-être même en France, d'ailleurs, je ne sais pas, de magiciens qui veulent absolument expliquer les tours de magie. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je trouve ça beau pouvoir faire ça chez soi. C'est comme si on voulait faire son spectacle de magie chez soi aussi. Enfin, moi, j'ai voulu apprendre la magie. Et j'ai pris des cours de magie, j'ai pris des livres de magie et ça s'achète. Donc, c'est accessible à n'importe qui. Et moi, je propose cette information-là aux gens qui la veulent et qui viennent la chercher chez moi. Mais avouez que si on vous dit qu'une recette est secrète et qu'elle est faite en cachette par des bonnes sœurs cachées derrière un petit volet fermé de 6h à 8h du matin uniquement, vous allez mourir d'envie de savoir comment elles font. Et vous allez trouver encore meilleure presque la recette parce qu'il y aura secret autour de ça. Si en plus vous mettez un packaging joli avec un service marketing qui vous fait une belle boutique, avec une histoire, une tradition, quelque chose, je pense que les gens deviennent complètement dingues et font la queue et veulent absolument connaître le secret. Mais moi, j'en fais partie, sauf que je l'ai fait. Puis je comprends finalement... La recette, elle n'est pas si complexe que ça, mais c'est tout ce qui est autour qui fait qu'on a l'impression qu'elle est juste hallucinante, alors que finalement, elle est très bonne, et c'est pour ça souvent que ça marche, parce qu'il y a une clientèle, c'est parce que c'est des fois meilleur que d'autres, mais ce n'est pas vrai pour toutes les... C'est comme les macarons la durée, ils étaient très bons avant. Maintenant, bon, moi, j'en peux plus des macarons, de toute façon. Mais la durée, aujourd'hui, c'est devenu une telle industrie, c'est quand vous achetez les cannelés à Lausanne, les macarons à Lausanne, ils sont congelés de Paris pour les faire venir à Lausanne, et c'est maintenant dans tous les aéroports et dans le monde entier, vous trouvez la durée au Japon aussi. Moi, ça perd un peu de son charme malgré tout. Et quel rapport avec les recettes secrètes? Aucune. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il y a autour d'une recette aussi, il n'y a pas que la recette. Mais la recette, au final, quand moi, ils m'ont fait goûter la crème crue, parce que c'est l'erreur qu'ils ont faite chez Belém dans leur laboratoire. j'ai pu goûter. Et franchement, on aurait dit une danette, quoi. On aurait dit une danette vanille. Et je me suis dit, mais finalement, on dirait une crème. Vous savez, les crèmes Micmac, je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai jamais mis la recette. C'est une crème moitié chocolat, moitié vanille. Et ça se mélange pas un peu comme un gâteau marbré, mais en crème. Et c'est un truc de 13 années 80, années 70, 80. C'était genre recette superware. Hein. Mais qui fonctionne très bien. Je pense que je vais la mettre sur le blog un jour. Mais ça ressemblait un peu à ça. Et finalement, c'est rien d'autre qu'une crème cuite, mais il fallait comprendre que c'était un bain-marie. C'était pas si simple que ça au départ à comprendre. Et la recette que j'ai proposée dans le blog pas longtemps après, où j'ai repris les essais, c'est pas une crème cuite au bain-marie. Et franchement, ils sont quasiment identiques, ceux du livre et ceux du blog. Mais il y a plein de recettes que j'ai pas publiées et j'en suis des fois au 50e essai. J'ai des pains d'épices, j'en ai fait des fournées parce que j'en ai un en tête précis que je veux. Je crois que c'est une fromagerie Bayvert à Paris, vous avez ça. Si vous avez un jour l'occasion d'y aller, goûtez le pain d'épices, il est hallucinant, mais je ne comprends pas comment ils font. Et le pire, c'est que parmi tous mes essais, un jour, j'ai quasiment réussi à faire comme eux. Et que j'ai pas pensé à peser un des ingrédients, mais j'étais aux 5 grammes près. Et quand j'ai recommencé le lendemain et j'ai tout réessayé, ben ça marchait plus. Et je ne sais pas pourquoi, mais la pâtisserie. Mais moi, je trouve ça très excitant. Des fois, j'ai envie de me jeter par la fenêtre hein, et de m'ouvrir les veines. Mais c'est à ce point. Et surtout, quand je rate un gâteau, il ne faut même pas être à côté de moi. On pense que je suis gentil dans une cuisine, mais je suis totalement infernal. Mais quand je rate quelque chose, c'est la journée est gâchée, comme si quand je mange quelque chose de pas bon. Mais quand je réussis une recette, je suis très content. Voilà. Mais je n'ai pas fini, parce qu'il y a tellement de choses partout. Dans le monde entier, il y a des choses à découvrir, à goûter, c'est sans cesse, et je suis vraiment épaté par tout ce que nous, enfin les êtres humains, on a été capable d'inventer. Tout existe déjà pour moi dans la cuisine. Enfin, c'est pas bien de dire ça parce que ça enlève la créativité à beaucoup de chefs, parce qu'il y a beaucoup de chefs de génie. Quand je parle de la mousse d'huître, de l'aldalienne, là, il y en a qui font ça très bien, c'est très innovant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a un qui va innover et tous les autres vont faire la même chose parce que c'est une tendance. Et moi, la tendance en cuisine, c'est quelque chose qui m'exaspère totalement. Les verrines, par exemple. Moi, vous n'avez jamais vu une verrine dans... Vous avez vu des ramequins dans mon blog, mais pas des verrines. Vous ne verrez pas de cuillère non plus. Vous ne verrez pas non plus de recettes au Thermomix, par exemple. Je me doute que certaines ont le Thermomix ici, ou certains. Mais je ne peux pas. Vraiment, Thermomix, je ne peux pas. Pour moi, ce n'est pas possible. Et pour moi, c'est des tendances. Alors, je dis ça et je suis en plein dans la tendance aussi, parce que je fais un blog et j'écris des bouquins de cuisine. Donc, on pourrait me dire que ouais, tu profites, tu surfes sur cette vague-là aussi. Et moi, c'est dans mes veines depuis 30 ans. Enfin, j'ai 37 ans aujourd'hui, depuis tout le temps. J'ai toujours aimé cuisiner. J'ai toujours été. J'allais en Bretagne en vacances quand j'étais petit. J'étais totalement obsédé par les galettes au Pont-Aven. Et je voulais comprendre comment ils faisaient. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est du beurre, du sucre, des œufs, de la farine. Rien d'autre. Eh bien oui, mais avec des pourcentages bien précis, des ingrédients bien, enfin, des proportions bien précises, on tombe sur quelque chose de totalement, radicalement différent. Et je trouve ça génial. Moi, il n'y a rien qui m'intéresse plus aussi. Enfin, il y a cette recherche de recettes qui existe déjà, mais aussi me mettre dans ma cuisine. Hier, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour un gâteau qui sera bientôt sur mon blog. Enfin, je vais peut-être reprendre un peu la recette, mais parce qu'il était vraiment... Enfin, c'est le truc, ça tombe dans l'estomac, et à mon avis, ça repart aussi vite. Mais c'est du massif lourd, et d'ailleurs, je l'appelle le cake énergie, mais c'est super énergétique, mais au moins, vous en mangez une tranche, vous tenez toute la journée, c'est comme du pain d'elfe dans Le Seigneur des Anneaux. Mais je trouve ça super intéressant. Je me mets dans ma cuisine, je pèse tous mes ingrédients. Après, je fais ça au pif, je jette tout dedans, je vois, je goûte, je remélange, je mets au four. Je repèse tout après, donc je sais exactement ce que j'ai mis dans ma recette. Et je mets au point un nouveau gâteau. Et l'assassin, il est sorti comme ça. C'est-à-dire que je l'avais en tête, la texture que je voulais. J'avais même écrit la recette sur un papier pendant que je faisais une sieste. J'étais au Cambodge, d'ailleurs, à ce moment-là, à Phnom Penh. Et du coup, je faisais une sieste, je me suis dit, mais si je mets autant de sucre, mais vraiment beaucoup de sucre et beaucoup d'œufs, et que je caramélise le sucre et que je mets vachement de beurre salé dedans, mais presque pas de farine, à mon avis, ça va être pas mal comme résultat. Et j'ai essayé, ça a marché tout de suite, mais des fois, c'est beaucoup d'essais. Je me rends compte que je suis un véritable moulin à parole, quoi. C'est sans doute effrayant pour vous. Mais alors, des recettes qui sont réputées secrètes et sur lesquelles on organise ce mythe de la recette secrète, bien entendu, jamais ils ne donneront leur recette. Mais parmi plein de gens, si vous posez les questions, les gens vous donnent des recettes. C'est assez incroyable. Hein. Les gens sont ravis de partager avec vous. Au Maroc, par exemple, vous l'avez vu, je donne beaucoup de recettes marocaines, mais les gens me donnent tout ce que je veux. Mais c'est totalement fou, je trouve, de partager à ce point-là. Je trouve ça super beau. Je trouve que c'est vachement optimiste, finalement, comme... comme façon d'aborder la vie, la cuisine, parce qu'on est justement dans l'idée que bah, on est là ensemble pour manger des bonnes choses et on partage des recettes, et même si on ne parle pas la même langue, on parle le même langage de la cuisine. Et je trouve ça, enfin, moi, je le vis comme ça en tout cas, et j'ai aucun préjugé sur qui que ce soit dans le monde. Sur aucune cuisine, même si je trouve que la cuisine française est délicieuse, si vous allez manger un riz au gras en Afrique centrale, ça peut paraître effrayant, mais c'est le nom qui s'appelle comme ça, c'est pas du gras uniquement, hein. Finalement, vous allez à l'entrecôte, vous mangez que du beurre aussi, donc c'est pareil, et aux frites en plus, donc de l'huile et du beurre. C'est la beauté dans le contexte aussi, et dans l'histoire, et dans la tradition, et dans les gens qui la perpétuent, et qui sont de la transmission de mère en fille la plupart du temps. C'est ça que je trouve qui m'intéresse énormément dans la cuisine, aussi au-delà du craquage de recettes, parce que je ne suis pas que là-dedans. Hein. Mais un exemple, donc vous le savez, Cuisine Plus Ferme, bon, pour ceux qui l'avaient, parce que je crois qu'il y avait 10 spectateurs qui regardaient cette émission de toute façon. Il y a, bon, c'est parce que, enfin, je sais pourquoi ils ont fermé et pourquoi ils ferment la chaîne, et c'est une très mauvaise gestion de budget. Et du coup, ça m'a donné un petit coup de pied aux fesses, parce que malheureusement, même si je n'étais pas formidable dans mes émissions, ça m'est complètement égal. Et c'est très amusant à faire. Et pour moi, c'est un challenge de me dire, j'ai envie de faire des émissions, mais j'ai envie de continuer. Et du coup, là, mon prochain projet, et que vous avez peut-être vu la photo il n'y a pas longtemps, c'est de faire des émissions. Je viens de tourner une émission de 52 minutes en anglais sur la cuisine française. Et chaque émission aura une région de France. Mais à destination des États-Unis, de l'Asie du Sud-Est, de tous les pays anglophones. Donc, c'est une émission que je produis, que j'anime et dont je suis l'auteur, rédacteur en chef, tout ça. Donc, avec un réalisateur indonésien, on a travaillé là-dessus. Avec toute une équipe de tournage, on a tourné pendant une semaine entière en Bretagne, dans le Finistère Nord. Et si, parce que mon livre, là, le premier, il est traduit en 5 langues et il sort aux États-Unis à la fin de l'année. Donc, c'est pour ça que je fais cette émission en anglais, c'est pour essayer de profiter de ça aussi. Et je me dis, si ça peut marcher, c'est maintenant, c'est pas dans 20 ans que j'y arriverai. Et du coup, cette émission, si elle est achetée, on en commandera 13 plus tard. Et du coup, il y aura une émission par région. Et d'ailleurs, je compte bien venir à Bordeaux et faire des cannelés. Et c'est pour ça que j'ai recherché quelqu'un qui faisait des cannelés pour faire avec lui et qui m'a donné sa recette derrière. Bref. Et du coup, justement, c'est ça aussi. C'est l'idée que justement, quand on demande aux gens, ils vous disent oui. Et pour cette première émission, je suis allé dans le Finistère, je suis allé à Douarnenez, pour ceux qui connaissent. Et c'est la ville du Queen Amman, qui est le gâteau au beurre. Ça veut vraiment dire gâteau au beurre en breton. Et j'ai déjà une recette que j'adore, qui est dans mon livre que j'ai mise au point quand j'avais 14 ans. C'est la même que j'ai depuis toujours. Oui, ça a commencé tôt l'histoire de chercher les recettes, parce que je cuisinais déjà, mais j'étais totalement dans l'obsession du Queen Amman à 14 ans. J'emmenais des sachets de levure sèche avec moi au lycée en me disant, si jamais je dois faire du pain, au moins j'en ai sous la main. Enfin bon, bref. Et du coup, du coup, quand je suis à la Douarnenez, on a fait l'émission, on a fait le tournage en anglais avec ce pâtissier qui s'appelle Thierry Lucas, dont j'ai mis la vidéo il n'y a pas longtemps sur Facebook, mais il m'a donné sa recette intégrale. Vraiment, donc je la publie pas la recette, mais je la garde pour moi. Mais il m'a donné tous ses secrets, tous. Et je trouve ça totalement dingue que quelqu'un qui vit de, qui je j'écoutais la question, c'est quand on vit de son, quand on vit de ça en plus, qu'on puisse partager ça. Enfin, je trouve ça mais fantastique. C'est d'une générosité totale. Et dans la cuisine, vous rencontrez beaucoup de gens comme ça. Et en ayant le culot de leur demander, en y allant franco, comme ça, vous leur dites, bon, après, c'est peut-être parce que j'ai le blog et les émissions et les bouquins et qu'ils y croient, alors que peut-être. Mais je pense qu'en ayant un peu de. Ben, il faut demander aux gens et les gens partagent facilement, hein, vraiment. Bon, après, moi, je vous leur transmets de toute façon les recettes, donc bon, elles seront vite remplacées par autre chose.
Mais merci, on me laisse un petit
non,
peu de
merci
temps
à
si
vous
vous
d'être
voulez faire
venu.
Une dédicace.
Avec plaisir, je signe avec joie. Bon, en tout cas, merci à vous d'être venu,
merci.
Ça fait plaisir.
Merci. Merci.